Eh bien, cette semaine, c'était vraiment le lancement officiel du iPhone 6. C'était tout un engouement autour de ça. Et le iWatch, c'est assez impressionnant de voir toute l'avancée technologique, de voir à la vitesse que ça avance. C'est assez impressionnant. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais dans la vingtaine, il y a à peu près une centaine d'années passées, ils avaient inventé un téléphone mobile qui devait aller dans les voitures. C'était pas mal gros, c'était tout un bétail cette affaire-là. C'était une grosse technologie. Ça s'appelait, ils vendaient ça 3 000 $. Ça s'appelle le modèle Contempra. Je vous ferai pas lever les mains, personne, là, parce que ça va trahir votre âge un petit peu. Mais regardez ce que ça avait de l'air, le Contempra, pour ceux qui n'ont jamais vu ce modèle-là. Et imaginez si aujourd'hui c'est dangereux de se promener sur l'autoroute à 100 km/h avec un petit cellulaire. Vous pouvez juste imaginer ce que ça fait de l'air avec le gros téléphone comme ça, le cordon qui passe par-dessus. Là, tu conduisais. Là. C'est vraiment assez incroyable. Merci. C'est incroyable, les avancées technologiques. Ils ont inventé, maintenant, c'est rendu que les gens achètent des téléphones cellulaires à leur nouveau-né, à leur bébé. Et puis là, le bébé vieillit un petit peu, puis là, il montre, regarde, tu pèses ce bouton, puis tu vas voir une photo de maman, puis tu pèses ce bouton-là, puis ça dit à maman que c'est le temps d'aller changer ta couche, c'est pas bien, tu pèses ce bouton. C'est assez incroyable. Et là, on a inventé, il y a quelques années déjà, un téléphone cellulaire pour votre chien. Et oui, on accroche cela au collier du chien. Et puis, mettons que vous avez une heure de dîner, alors ce que vous voulez faire, c'est que vous vous ennuyez, vous avez une crise d'ennui de votre chien, alors ce que vous faites, c'est que là, vous téléphonez votre chien, puis ça répond automatiquement, la ligne répond, évidemment, c'est pas le chien, non, en tout cas, ça répond tout seul, et ça se répond, et puis là, vous pouvez parler à votre chien, vous pouvez, tu sais, comme vous ennuyer, vous dites des beaux mots et tout ça, et puis il faut pas s'attendre de réponse, évidemment, mais ça fait rien, vous pouvez au moins communiquer à votre chien. Maintenant, à cause de toutes ces avancées technologiques, à cause des inventions qu'ils ont faites, et c'est très agréable d'avoir ces avancées technologiques-là. Moi-même, avec ma petite fille, hier, je parlais à ma petite fille en FaceTime. J'ai une petite fille qui s'appelle Ariel, puis elle veut absolument que le vendredi soir à 7h30, on s'appelle sur FaceTime. Elle est à Trois-Rivières, puis c'est gratuit, tu peux lui parler, tu la vois. Hier, mon autre fille, Ève, m'a téléphoné sur FaceTime. Elle a déposé le téléphone sur le cabinet de toilette, juste ici sur une tablette, pendant qu'elle se brossait les dents. C'était très chic, mais on a eu un bon temps ensemble de pouvoir jaser. C'est super, ces avancées technologiques-là. C'est vraiment précieux. On les aime, c'est bien. En même temps, à cause de cette avancée technologique, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe, et c'est de toute la pression qui augmente. Parce que voyez-vous, maintenant, on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un de mes amis me disait qu'il travaillait pour le gouvernement quelque part, à Montréal. Il me disait qu'il dit, normalement, c'est rendu, je vais à la toilette. Tu sais, tu as ces petites pauses le matin, tu t'en vas à la toilette. Il dit, je suis rendu, je suis à la toilette, bien installé, mon boss m'appelle. Et c'est rendu que tu es disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et à cause de ça, il y a un phénomène qui se produit. C'est qu'alors qu'on pensait que les avancées, les découvertes technologiques allaient réduire un petit peu le stress et la somme de travail, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Le stress augmente. Si bien qu'on est rendu à une place maintenant qu'on vend, comme jamais dans l'histoire, autant de médicaments pour antidépresseurs, pour les nerfs, pour se calmer des burn-out, des dépressions et tout ça, parce que les demandes sont tellement élevées, c'est rendu tellement une charge incroyable, la pression, les livrables et tout ça. On a découvert, je lisais ça cette semaine, un article américain qui disait qu'aux États-Unis, ils sont pris avec les suicides de médecins. C'est rendu qu'il y a plus de 400 suicides de médecins chaque année aux États-Unis. C'est eux qui prescrivent des antidépresseurs et tout ça. Et ils sont rendus même eux-mêmes avec tellement de pression qui s'accumule qu'ils n'en peuvent plus. Et vous savez, le suicide, c'est quoi? Hein? C'est que tu es rendu à la place dans ta vie où tu as plus peur de la vie que de la mort. Et ils ne voient pas d'issue, pas de solution, pas d'espoir, et ils terminent leur vie. Mais le problème de ce que nous lisons lorsqu'on ouvre la Bible et on découvre dans les Écritures, c'est que le problème de fond se trouve au cœur. Ce que nous avons besoin, c'est vraiment un cœur restauré. Et c'est là que ça se passe, c'est dans le cœur. On a besoin d'un cœur restauré. D'ailleurs, c'est la découverte que Brian Welch a fait il y a quelques années. Ce chanteur qui fait partie du groupe de Korn, Brian Welch, a vendu plus de 30 millions d'albums. Il fait un succès phénoménal. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il disait. Il disait que plus que son succès et la gloire montaient, plus qu'il faisait d'argent, plus qu'il sentait un vide dans son cœur. Et ça montait, sa carrière montait comme ça, mais dans son cœur, dans le fond de son cœur, il sentait un vide, pire en pire. Maintenant, il a essayé de remplir ce vide avec toutes sortes de choses, évidemment. Étant millionnaire, multimillionnaire, il a essayé de remplir avec toutes sortes de la boisson, la drogue, les femmes, les parties, tout ça. Mais Brian Welch a tout essayé. Imaginez, quand tu es rendu au sommet, quand tu es rendu que tu peux te permettre pas mal tout, ce que le monde aimerait avoir, la gloire, l'argent, tout ce que tu veux. Et quand tu es là, quand tu atteins le sommet, et que tu sens encore un vide dans ton cœur, tu vas où pour le trouver? Et Brian Welch dit, j'ai tout essayé et rien n'a réussi à remplir ce vide que j'avais dans mon cœur. Jusqu'un jour. Un jour, un agent d'immeuble, il a fait connaissance d'un agent d'immeuble. Il investissait des millions de dollars, évidemment, il fallait qu'il fasse quelque chose avec son argent. Il s'est intéressé au marché immobilier. Donc, il a commencé à investir dans l'immobilier. Puis là, il a fait la rencontre d'un agent d'immeuble. Et l'agent d'immeuble lui a dit ceci. Il dit, écoute, Brian, je ne sais pas ce qui me pousse à faire ça. Je n'ai jamais fait ça avant. Mais je sens vraiment le besoin de partager un verset dans la Bible. Et il lui a partagé un verset qui se trouve dans Matthieu 11, et j'aimerais vous le lire maintenant. Regardez bien ce que ça dit. Ça dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est exactement ce que Brian Welch souhaitait depuis bien longtemps, trouver finalement une paix dans son cœur, qu'il ne réussissait pas à faire, que l'argent n'a pas réussi à combler, que la gloire n'a pas réussi à combler, que l'amour même n'a pas réussi à combler. Et finalement, il découvre dans la personne de Jésus-Christ que Jésus-Christ est exactement ce qui lui manquait. Et il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à comprendre l'amour que Dieu avait eu envers lui. Il a commencé à voir et à comprendre ce que Jésus a fait pour lui un jour et comment Jésus a pris ses péchés sur ses épaules pour le purifier son cœur et le sauver. Brian a fait la plus belle découverte que l'on puisse faire, que nul autre est comme Jésus. Brian a placé sa foi en Jésus-Christ. Il a demandé à Jésus de le sauver. Et finalement, Brian Welch a découvert la paix avec Dieu. Ce que le succès, la gloire et tout l'argent du monde n'avaient pas réussi à faire, Jésus l'a fait dans son cœur. Jésus lui a donné la paix qu'il recherchait tant dans son cœur. Le cœur de Brian fut restauré par la puissance de l'Évangile. Ce qu'on découvre dans la Bible, et c'est la raison pour laquelle finalement nous connaissons un vide au fond de nous, c'est rien ne peut remplir notre cœur, que ce soit l'argent, la gloire. C'est juste Jésus qui peut combler ce vide que l'on éprouve. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. On a été créés pour avoir une intimité avec Dieu. La Bible appelle ça avoir été créé. On a été créé à l'image de Dieu. Alors Dieu nous a créés pour avoir une relation avec nous. On ne peut s'épanouir vraiment sans la présence, sans avoir une relation et une présence avec Dieu. J'aimerais vous lire un passage de la Bible où nous voyons Jésus donner la solution dont nous avons tous besoin pour avoir ce cœur restauré. Voyez-vous, un jour, Jésus se retrouve devant les disciples qui viennent d'apprendre une triste nouvelle. Les disciples sont préoccupés, sont inquiets. Même l'original dit, emploie le mot « agité ». Ils ont un cœur agité, ils sont soucieux. Et on va comprendre pourquoi. Mais Jésus va leur parler, va leur donner un message. Et voici ce que Jésus dit à tous ceux et celles qui cherchent la paix. Et ça se trouve dans Jean 14. J'aimerais vous lire ce passage qui se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 1. Je vais vous le mettre sur l'écran si jamais vous n'avez pas de Bible avec vous ce matin. Il dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Vous voyez? « Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je suis et vous savez où je vais et vous savez aussi le chemin. Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Parce que ses disciples avaient peur, ils s'inquiétaient. Jésus vient de leur annoncer qu'il va quitter. Ça fait quelques années qu'il est avec lui, que les disciples sont avec lui. Et les disciples sont inquiets, sont préoccupés, ils ont peur parce que Jésus vient de leur annoncer qu'il s'en va mourir à la croix. Et là, ils regardent les circonstances, ils regardent Jésus qui s'en va, qui va les quitter bientôt. Alors les disciples sont préoccupés, sont soucieux, ils ont une lourdeur et un fardeau. Et ils savent que Jésus parle d'être arrêté, d'être trahi, d'être battu et même crucifié. C'était le pire scénario auquel les disciples pouvaient s'attendre. Oui, Jésus leur avait déjà dit qu'il allait les quitter. Mais maintenant, on parle de mort, on parle de crucifixion. Ils n'avaient pas compris que Jésus se dirigeait vers la croix pour mourir afin de prendre sur lui nos péchés et ressusciter ensuite d'entre les morts. Alors qu'ils viennent, les disciples viennent de recevoir cette pire nouvelle, alors que tout leur espoir vient de s'écrouler, à ce moment-là, dans le bas-fond, dans le creux, Jésus leur dit, « Soyez pas inquiets, que votre cœur ne se trouble pas, ne soyez pas inquiets. » Jésus leur dit, « Les gars, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. » Et ce que Jésus leur dit dans ce message qu'il va livrer à ses disciples, ce message est bon pour chacun d'entre nous. Pourquoi je n'ai pas besoin de m'inquiéter? Pourquoi de me soucier? Pourquoi je n'ai pas besoin d'avoir peur? Et Jésus donne trois raisons. La première, c'est que tu peux te fier sur moi. Ce que Jésus leur dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Tu peux te fier sur ma parole. Quand je dis quelque chose, je le livre. J'accomplis ce que je dis. Jésus leur dit, dans le fond, je suis au contrôle. Oui, je vais à la mort, je me dirige à la croix. Mais dans le fond, Jésus est souverain, il contrôle exactement ce qui est en train de se passer. Il était en train d'accomplir ce qu'il avait déjà prophétisé des centaines d'années avant dans l'Ancien Testament, qu'un sauveur viendrait et prendrait notre place, mourir à notre place sur la croix pour prendre nos péchés sur lui. Alors Jésus est en train de leur dire, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, je suis au contrôle. Vous savez, lorsqu'on regarde les circonstances autour de nous, c'est facile de se décourager. Parce que parfois, ça va très mal. Et on peut vivre toutes sortes de situations qui sont difficiles et éprouvantes. Mais Jésus est en train de leur dire, tu as besoin de mettre tes yeux sur moi. Garde tes yeux sur moi. Fais-moi confiance, je suis au contrôle. Et ça, c'est le message de l'Évangile. L'Évangile rend la paix possible. Ken Sandy donne une bonne définition de l'Évangile. Et voici ce qu'il dit. Il dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire la paix. Sans la compréhension de l'Évangile, nous ne pouvons pas avoir accès à la puissance de Dieu. L'Évangile est la nouvelle incroyable que Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés et nous sauver de la séparation éternelle d'avec Dieu, et qu'il est ressuscité des morts pour nous donner la vie éternelle. Par la foi en Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, adoptés dans sa famille. Nous avons le don d'être avec Dieu pour toujours. Voilà la définition que Ken Sandy donne de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que nous sommes des pécheurs. Et en raison de notre péché, nous sommes séparés de Dieu. La Bible dit aussi qu'en raison de notre péché, nous serons jugés. Oui, la Bible parle d'un jugement dernier. Vous savez que c'est là souvent que les gens sont mal à l'aise lorsqu'on parle de l'enfer et de ce jugement dernier. Mais la Bible en parle. Les gens n'ont pas de problème lorsqu'on parle d'enfer et du jugement à venir lorsqu'on parle d'Hitler. On va parler d'Hitler ou un tueur en série. Mais c'est quand ça devient personnel que les gens deviennent un peu nerveux. Mais la Bible en parle. La Bible est claire à ce sujet. L'enfer existe. La parole de Dieu parle du jugement dernier pour tous ceux et celles qui auront refusé Jésus-Christ. Mais la Bible dit aussi que Dieu a tout fait ce qui était possible pour t'empêcher d'y aller. Parce qu'il t'aime, Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, prendre ta place sur la croix. Et si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, si tu demandes à Jésus d'entrer dans ta vie, tu places ta foi en lui. Si tu places ta confiance en lui, la Bible dit, tu seras sauvé, tu vas avoir la vie éternelle. Maintenant, Jésus veut te sauver ce matin. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix. Il a pris sur lui le péché, ton péché. Pourquoi je n'ai pas besoin de m'inquiéter? Bien, premièrement, je n'ai pas besoin d'avoir peur. On peut faire confiance à Jésus. Deuxième réponse que Jésus donne pour rassurer ses disciples et nous rassurer, c'est si tu places ta foi en Jésus, tu t'en vas au ciel. Jésus dit au verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Imaginez ce qu'il y a de plus beau sur terre. Si vous pouvez imaginer dans votre esprit ce qu'il y a de plus beau sur terre, eh bien, ce sera encore plus chic, plus riche et plus beau au ciel. Pour exprimer la beauté, le plaisir, le bonheur que l'on va connaître au ciel, Jésus va puiser d'une expérience qui était bien connue à l'époque et encore aujourd'hui. L'une des expériences les plus marquantes dans ta vie, et c'est le mariage. Jésus va puiser dans une des coutumes que les gens connaissaient bien, c'est le mariage. Une grosse journée, le mariage. Je parle à un couple, j'ai fait plusieurs mariages, et il y a toute une excitation là, pour ce grand jour qui s'en vient, le jour du mariage. C'est un temps de plaisir, on s'amuse ensemble, on se réjouit, on partage le bonheur ensemble de voir ce couple qui s'aime, qui s'unisse. Eh bien, Jésus va aller chercher cet exemple-là comme exemple, comme pour nous rappeler, nous parler un peu du bonheur que nous allons connaître au ciel. C'est encore plus vrai à l'époque du Nouveau Testament. Si vous voyez ici, le dimanche matin, lorsqu'il y a un mariage, le lendemain matin, bien des gens ont des petits yeux. Ils sont fatigués, ils sont couchés à 2 heures, ils ont dansé, ils sont amusés, ils ont eu beaucoup de plaisir. Bien, imaginez, à l'époque de l'Antiquité, ça durait 2 semaines, cette affaire-là. Et 2 semaines de party, la ville est invitée, le village, et c'était toute une fête incroyable pendant 2 semaines. Et ça faisait du bien à ce peuple-là qui vivait dans la pauvreté. Et c'était très difficile. Donc, lorsque tu te mariais, cette fête villageoise qui arrivait était vraiment comme une récréation tellement agréable qui était rafraîchissant pour tout le monde. Et Jésus va chercher cet exemple-là lorsqu'il parle de la joie que l'on va éprouver ou qu'on va connaître dans l'éternité. Et ça va être encore meilleur. Vous savez, à l'époque, la coutume de mariage voulait que lorsqu'un jeune homme était en amour avec une femme, ce qu'il faisait, le jeune homme allait demander à la femme en mariage si elle acceptait. Il y avait toute une procédure, un rituel là-dedans. Et si elle acceptait, là, tu passais par la première cérémonie. En fait, dans le fond, c'est un peu comme l'équivalent pour vous aider à comprendre le contexte. Il y a les fiançailles puis il y a le mariage. Eh bien, à cette époque-là, imaginez les fiançailles, mais vous êtes légalement mariés, mais là, ce que vous faisiez, après avoir passé ce premier rituel, ce rythme de mariage, vous quittiez votre femme. Alors, vous retourniez auprès de la maison de votre père, et là, vous laissiez votre future épouse dans sa famille. Et ce que vous faisiez, ça durait à peu près 1 an, 6 mois, 1 an. Et là, ce que tu faisais, tu construisais un annexe à la maison de ton père. C'est la façon qu'on assurait la pérennité, si tu veux, de la valeur patrimoniale. Parce que tu ne voulais pas que les enfants commencent à vendre des bouts de terrain de la maison puis il ne reste plus rien à travers les décennies. Fait que pour assurer, si tu veux, cette continuité, protéger les valeurs de la famille, la terre, si tu veux, ce coin de terrain en Israël, tu construisais des annexes. Si tu avais une fille, elle allait plutôt déménager avec le mari. Mais si ton fils se mariait, tu allais chercher après 1 an environ, ce que tu faisais, tu construisais donc une maison, une annexe à la maison de ton père. Et là, ça se bâtissait comme ça. Et après à peu près 1 an, ça prenait 1 an, juste monter la maison, et c'était le père qui décidait quand est-ce que c'était prêt. Parce que c'était écrit dans la littérature juive, la loi juive qu'on appelle le Talmud, c'était écrit qu'il fallait vraiment que le fils assure une maison, un foyer, une vigne dans la cour, qu'il y ait la nourriture et tout ça, avant d'aller chercher la femme pour qu'elle puisse venir, pour qu'elle soit bien. Donc, c'était le père qui décidait. Parce que c'est sûr, parce que le jeune homme disait, « Ah, c'est fini, je vais aller voir ma femme, je vais aller chez ma femme. » Là, les fenêtres n'ont pas monté, tu n'as pas installé les armoires IKEA, puis tout traîne. Écoute, non, c'est pas le temps, là. Alors, c'était le père qui décidait. Et ça nous fait penser justement à cette parole de Jésus qui disait, c'est le Père seul qui sait, qui décide pour la fin, quand je vais revenir. Et ça fait allusion à toute cette coutume. Ça s'inscrit dans l'intérieur de la coutume du mariage à l'époque. Et le Père, là, le Fils, quand il était prêt, allait chercher sa femme et la ramenait. Puis là, c'était la fête au village. Eh bien, Jésus va prendre cette coutume pour dire que le ciel, ça, le mariage que vous voyez ici, imaginez le plus beau mariage qu'on pourrait imaginer. Ça va être juste un échantillon de ce qui s'en vient au ciel. Et cette fête au village va durer pour l'éternité. À imaginer une fête, ça va être une récréation spirituelle qui va durer toute l'éternité. Ça va être magnifique. Et Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Moi, je m'en vais vous préparer une place. Parce que vous voyez, l'Église est comparée à son épouse, à sa fiancée. Et il va nous prendre comme épouse. Et il va nous emmener avec lui dans l'éternité. À imaginer, dans le fond, toutes les expériences, les meilleures expériences qu'on peut éprouver ici sur Terre, c'est juste finalement un soupçon de ce qui s'en vient. C.S. Lewis le dit comme ceci, il dit, « À certains moments, j'ai pensé que nous ne désirions pas le ciel. Mais plus souvent, je me surprends à me demander si dans le tréfonds de nos cœurs, nous avons jamais désiré autre chose. Toutes les choses qui ont jamais saisi profondément notre âme n'ont été que des allusions à cela, des lueurs fugitives et décevantes, des promesses jamais tout à fait accomplies, des échos qui s'éteignaient juste au moment que notre oreille les percevait. » Lewis dira également, « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Le ciel sera parfait. Ça va venir combler les aspirations les plus profondes que tu as recherchées à quelque part dans le monde, puis que c'est jamais livré vraiment. C'est le point que Lewis est en train de faire ressortir. On va profiter d'un bonheur parfait. Ça va être magnifique pour l'éternité. Certaines personnes s'imaginent que dans le ciel, on va avoir comme un long service de célébration. C'est un peu comme le dimanche matin, meilleur, puis ça va durer comme tout le temps. Puis on va être comme dans un éternel service de célébration. C'est un peu comme si Alex va nous conduire dans une louange qui finira pas, qui va être au ciel, puis ça va toujours durer. Mais il y a plus que ça, c'est plus complexe que ça, le ciel. Oui, effectivement, il dit, on va chanter ensemble, on va louer Dieu, parce qu'on va vouloir donner gloire à Dieu. Mais vous savez quoi, c'est plus complexe que ça, on va pouvoir se retrouver aussi, on va pouvoir jaser, se parler. On n'a pas beaucoup de détails dans les Écritures sur la façon que ça va être, et la raison est bien simple. La Bible met beaucoup plus d'accent pour te montrer le chemin pour te rendre, puis comment éviter le jugement dernier, que de détailler le ciel. Je pense qu'il y a une belle surprise qui nous attend, les amis. Hey, ça va être magnifique. Mais on va pouvoir faire un tas de choses au ciel. On voit qu'on va être capable de se parler, de se reconnaître. On va faire des réunions famille. On va pouvoir manger. Hey, c'est-tu pas fantastique? On va pouvoir manger, ça va être bon. Tu n'es pas obligé de manger, mais si ça te tente, tu vas pouvoir manger. Puis tu sais qu'est-ce qui est le fun? Tu vas pouvoir manger tant de Big Mac que tu veux, puis il n'y a personne qui va venir te dire « c'est pas bon pour la santé ». Un bon milkshake à vanille de McDo, là, tu sais que tu as de la misère, tu as mal à la tête, tu as faim, là, tellement tu tires fort. Là. Hey, prends-en deux. Il n'y a pas de cholestérol au ciel. On va être bien. Hey, j'ai assez hâte. Savez-vous quoi? On ne s'ennuiera pas au ciel. L'ennui n'existera pas. Hey, c'est incroyable, pareil. Hein? Hey, amen. Hein? Vous savez, toujours en train d'occuper vos jeunes. Là. C'est plus bon de faire ça. Là. Là, ça va être bien. Le ciel sera une place où le mal va disparaître. Il n'y aura plus de tristesse, plus de larmes. Ça va être glorieux. Alors, imaginez ce que Jésus est en train de dire. T'as pas besoin de t'inquiéter. Inquiète-toi pas, parce que sais-tu quoi? Ton avenir va être radieux. Ton avenir, glorieux. Ton avenir va être consolant. Quand on va rentrer dans l'éternité, indépendamment des peines, des tristesses que tu auras eues, la consolation du Seigneur sera en toi. Tu seras relevé, consolé. Tu seras dans les bras du Seigneur et il va exercer un ministère. Ça va être glorieux. Alors, la douleur qu'on peut éprouver aujourd'hui, on peut se rappeler ce que le Seigneur a dit. Inquiète-toi pas. Ne te laisse pas te décourager par ces choses-là. Garde tes yeux fixés sur moi. Puis deuxièmement, rappelle-toi, tu t'en vas au ciel. Rappelle-toi de ton avenir glorieux qui s'en vient. Puis troisièmement, je reviens. Je m'en viens te chercher, là. Et c'est ça qu'il dit au verset 3. Il dit, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur s'en vient nous chercher. Imaginez, ce sera une grande réunion. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Et c'est probablement la question la plus importante que tu t'es jamais posée. Tu ne le réalises peut-être pas aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas conscient de la lourdeur de cette question-là. Mais elle est importante et tu dois te la poser un jour ou l'autre. Es-tu prêt? Es-tu prêt à faire la rencontre de Dieu? Es-tu prêt, si Jésus allait revenir aujourd'hui, es-tu prêt de le rencontrer? As-tu demandé à Jésus de venir te sauver? As-tu placé ta foi en lui pour avoir le salut? Maintenant, tu peux prendre cette décision ce matin même. Tu peux, avant même de quitter ce lieu, c'est mon souhait, c'est ma prière, que si tu n'as pas encore fait ce geste, si tu n'as pas encore demandé à Jésus de venir dans ta vie, que tu ne quittes pas ce lieu avant d'ouvrir ton cœur à Jésus et lui demander humblement, « Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. » Maintenant, comment on fait ça? Comment on ouvre notre cœur au Seigneur Jésus? Bien, c'était la question de Thomas. Thomas qui pose la question, il dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment on fait? » Et Jésus lui dit, « C'est moi qui ai le chemin. Tu peux pas te tromper, viens à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu. Nul ne va au Père que par moi. » Alors, premièrement, voici les premières choses que tu as besoin de faire. C'est de te reconnaître pécheur. Tu as besoin d'être humble devant Dieu. Dire, oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Deuxièmement, reconnais que Jésus est allé à la croix pour tes péchés. Troisièmement, tu as besoin de te repentir de tes péchés. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être parfait et t'améliorer absolument pas. Rien de ce que tu peux faire va te gagner le ciel. C'est déjà accompli et gagné par le sacrifice au calvaire lorsque Jésus est allé sur la croix. Mais repentir veut dire que tu prends la décision, que tu ne veux plus vivre comme tu vivais avant. Tu veux maintenant marcher avec Dieu. C'est ce que les gens vont faire tantôt lorsqu'ils se font baptiser. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de démontrer par leur vie qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur. Ce n'est pas ça qui leur mérite le ciel. Ce n'est pas ça qui va leur donner la vie éternelle. Mais c'est une évidence d'une décision qui a été prise qui s'appelle la repentance. Quatrièmement, tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Tu lui demandes par une simple prière qu'on va faire ensemble. Et Dieu, ce matin, t'offre un cadeau. Il t'offre le plus merveilleux don que tu puisses recevoir. Dieu est ici ce matin puis il dit, j'ai un cadeau à te donner. C'est le pardon de tes péchés. J'ai un cadeau pour toi. C'est la certitude que je réserve une place pour toi au ciel. Ta place est réservée. Tu vas rentrer au ciel, ça va être écrit, Normand Joseph, sur une chaise. C'est réservé, ça t'attend. J'ai un autre cadeau pour toi, dit le Seigneur. C'est de savoir que lorsque Jésus reviendra, il va te prendre avec lui, puis tu vas avoir le bonheur pour l'éternité. Tu veux-tu avoir ce présent que Dieu t'offre ce matin? C'est ce qu'il t'offre ce matin. Alors, j'aimerais t'inviter à courber ta tête, et ouvrez ton cœur au Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'a parlé ce matin par son esprit et il t'invite à venir humblement devant lui. Courbons-nous et prions. Eh bien, Seigneur, tout d'abord, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait, te remercier pour ce sacrifice qui a été accompli sur la croix. Merci pour la vie éternelle. Merci pour cette place que tu prépares pour nous, Seigneur. Tu nous dis, ne vous inquiétez pas. Fiez-vous sur moi. Ayez confiance. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand ça sera prêt, je vais venir vous chercher. Seigneur, nous avons hâte d'entrer dans le ciel, te voir face à face et connaître tout ce bonheur merveilleux que tu décris dans les Écritures. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin, vous voulez faire une prière, donner votre vie à Jésus. J'aimerais faire une prière, peut-être que vous voulez me suivre dans votre cœur, vous pourriez faire cette prière. Si c'est fait avec sincérité, le Seigneur vous entend. Le Seigneur le sait. Le Seigneur va vous sauver ce matin même, si vous lui demandez. Alors, faites cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais premièrement que j'ai péché. Je reconnais que je suis séparé d'avec toi et que le jugement m'attend, Seigneur. Mais je reconnais aussi que Jésus a pris ma place sur la croix. Je crois à ce salut que tu m'offres ce matin. J'aimerais te demander, Seigneur, ce matin, que tu puisses pardonner mes péchés. Te remercier que Jésus a pris ma place sur la croix. Je te demande, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Ô Jésus, entre dans ma vie. Je te cède ma vie, Seigneur. Pardonne mes péchés, mes fautes. Et je prends la décision ce matin. Je veux marcher avec toi. Bien, si vous avez fait cette prière, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te prie de mettre ta main sur chaque personne ici ce matin. Il y a peut-être des gens qui ouvrent la première fois de leur vie. Ils ouvrent leur cœur à toi, Seigneur. Touche-les. Aide-les. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tout prêts de prendre cette décision. Ils ont des inquiétudes. Mais nous entendons cette voix de Jésus qui dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas. Fiez-vous sur moi, croyez en moi, croyez en Dieu. Et Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses mettre ta bonne main sur tous ceux et celles qui ce matin t'ont donné leur vie, qui ont placé leur foi sur toi. Accompagne-les. Merci de leur donner la vie éternelle. On te prie, Seigneur, que tu puisses ensemble, chacun d'entre nous, peut-être quelques-uns, on s'est éloignés de toi. On a besoin de revenir à toi, Seigneur, ce matin. Avoir ta bénédiction. On sait que c'est comme ça que tu es glorifié. Alors, Seigneur, on te prie. On aimerait te remettre notre vie entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les baptisés. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Chaque personne a raconté une histoire. Comment tu es allé les atteindre, les chercher. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit. Nous remettons le restant de cette journée entre tes mains, le service du baptême entre tes mains. Seigneur, on te doit tout, on veut te dire à quel point on t'aime. On réalise de plus en plus à quel point tu nous as aimés en allant sur la croix. Merci Seigneur. Alors au nom de Jésus, nous te prions pour ta gloire.